Chapitre 4 Les voies de la grâce dans la bénédiction des pécheurs. Les événements rapportés au chapitre 2 ont prouvé la ruine totale de l'homme. La voie est alors ouverte, au chapitre 3, pour présenter la souveraineté de Dieu opérant en faveur de l'homme. Ce dernier s'étant ruiné irrémédiablement, toute bénédiction à son égard doit procéder de Dieu seul. Aussi, au chapitre 3, la vérité est-elle présentée du côté de Dieu? L'entrée dans la bénédiction dépend de l'opération souveraine de l'Esprit dans l'homme. Le fondement de notre bénédiction repose sur l'œuvre de Christ à la croix. Et la source de notre bénédiction a son origine dans l'amour de Dieu pour l'homme. Au chapitre 4, la vérité est présentée de notre côté, montrant comment un pécheur est introduit dans la bénédiction. Cet aspect est illustré dans l'histoire de la femme, à la fontaine, tirée des profondeurs de la misère et de la dégradation pour être élevée au fait de la bénédiction. Une femme corrompue de naissance et avilie par sa vie se voit offrir la bénédiction céleste suprême, l'eau vive jaillissant en vie éternelle, afin qu'elle devienne une adoratrice satisfaite. La vérité contenue dans ce chapitre présente un contraste frappant avec celle du chapitre 2. Dans ce dernier, en rapport avec l'homme respectable et religieux, la joie terrestre s'épuise et le culte dans le temple est corrompu. Au chapitre 4, en relation avec l'histoire d'une femme dégradée, nous avons des joies célestes qui ne tarissent jamais et l'adoration du Père en esprit et en vérité. La joie terrestre est surpassée par la joie céleste. Et le culte dans le temple est remplacé par l'adoration du Père. Le chapitre place devant nous la splendeur de Dieu révélée dans le Christ Jésus. Il montre que l'amour de Dieu, l'efficacité de l'œuvre de Christ et l'action souveraine de l'Esprit, comme nous les révèle le chapitre 3, sont telles que les pires pécheurs de la terre peuvent être introduits dans les bénédictions les plus élevées du ciel. Le cœur de l'homme peut être satisfait par l'eau vive, et le cœur du Père trouvait son plaisir dans l'adoration en esprit et en vérité. Versets 1 à 30 L'histoire de la femme à la fontaine. Citation de l'Écriture. Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire « Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean », toutefois Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. Il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée. Et il fallait qu'il traversât la Samarie. Il vient donc à une ville de la Samarie, nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph son fils. Et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la sixième heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les juifs n'ont point de relation avec les samaritains. Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi, tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu, et ses fils, et son bétail ?» Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit et dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit. « Je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient, que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez, vous ne savez quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et là-dessus ses disciples vinrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois nul ne dit, « Que lui demandes-tu ? » Ou, « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme donc laissa sa cruche, et s'en alla à la ville, et dit aux hommes, « Venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils venaient vers lui. Fin de citation. Nous apprenons ici comment Dieu agit pour gagner notre confiance, afin que le pécheur soit amené à croire en l'amour de Dieu qui accorde les bénédictions les plus riches aux pires des pécheurs. Dès les premiers versets, nous voyons que le Seigneur se place en dehors de la sphère juive, indiquant que les bénédictions célestes que Dieu a en réserve pour l'homme ne peuvent être limitées aux Juifs. Ayant rejeté Christ, les pharisiens étaient apparemment mécontents que le Seigneur attire à lui plus de disciples que Jean. En effet, nous lisons que Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. Christ avait devant lui le conseil de Dieu d'introduire des pécheurs dans les bénédictions célestes. Il ne pouvait dès lors pas accomplir un rite qui, tout en séparant les âmes de la nation coupable, les liait à lui seulement pour la terre. Pour les disciples, il était juste de baptiser en ce temps-là, car dans la foi de leur âme, ils ne connaissaient Christ que sur la terre. Christ savait que, pour le moment, son royaume terrestre était mis de côté. Aussi quitte-t-il la Judée pour aller dans la Galilée des nations. Matthieu 4, verset 15. Afin de nous enseigner des vérités valables pour le monde entier. Pour se rendre en Galilée, il fallait qu'il traverse la Samarie. Pourquoi devait-il absolument passer par la Samarie ? Il est vrai que la route directe pour la Galilée conduisait à travers la Samarie, mais il existait d'autres chemins que prenaient les Juifs stricts afin d'éviter un peuple qu'ils méprisaient. La nécessité ne relevait donc pas d'une question de route et de pays. Ne pouvons-nous pas plutôt dire que le besoin était dans le cœur de Dieu ? Avant la fondation du monde, Dieu avait destiné une pauvre pécheresse de Samarie à la bénédiction, et, afin de gagner cette âme et de satisfaire le cœur de Dieu, il fallait que Jésus traverse la Samarie. Les Samaritains de l'époque du Seigneur étaient justement considérés comme une race corrompue. Le début de leur histoire est rapporté en 2 Rois 17, versets 24 à 41. Après la captivité des 10 tribus, le roi assyrien fit venir des gens de Babylone et d'autres villes païennes pour repeupler le pays. Comme ces populations habitaient le pays de Dieu, mais ne craignaient pas l'Éternel, il les troubla en envoyant contre elles des lions. Pour essayer de remédier à ce mal, le roi d'Assyrie leur envoya un sacrificateur de l'Éternel afin qu'il leur enseigne le chemin de Dieu. Il s'ensuivit qu'ils devinrent un peuple corrompu. Ils craignaient l'Éternel, et ils servaient leur Dieu. Ils avaient donc une vague connaissance de l'Éternel et du fait que le Messie devait venir. Le Seigneur traverse ce pays corrompu afin de bénir une âme dans le besoin. Arrivé à la fontaine de Jacob, et étant lassé du chemin, il s'assit sur le puits. Il est non seulement fatigué, mais il a soif. En effet, il demande à la femme qui vient à ce moment pour puiser de lui donner de l'eau à boire. De plus, les disciples étant allés à la ville voisine pour acheter des vivres, le Seigneur se trouve seul. Quelle scène magnifique ! la parole éternelle, le Créateur des mondes, le Fils éternel, qui est dans le sein du Père, devint chair, et étant devenu chair, il demeure parmi nous plein de grâce et de vérité. Il met de côté sa condition et sa majesté royale pour marcher dans un chemin d'humiliation comme un étranger sur la terre. Il ne traverse pas le pays en tant que roi dans sa majesté, accompagné d'une suite royale, mais il devient un homme pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Ainsi, avec étonnement et adoration, nous le trouvons assis sur la fontaine, fatigué, assoiffé et solitaire. Le Dieu d'éternité, l'Éternel, le Créateur des bouts de la terre, celui qui ne se lasse pas et ne se fatigue pas, vient comme un étranger dans le pays et est fatigué de son voyage. Le Créateur de chacune des gouttes d'eau de l'univers est lui-même un homme assoiffé dans le monde que ses mains ont fait. Celui qui, dans la gloire céleste, avait toujours été entouré par les armées angéliques, est vu sur la terre comme un homme solitaire. Pourquoi était-il devenu un homme fatigué, assoiffé et solitaire? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen qui lui aurait permis de s'approcher d'une pauvre femme dégradée et de gagner ainsi la confiance de cette pécheresse au point de faire disparaître toutes ses craintes coupables et de l'amener à croire que, malgré ses nombreux péchés, Dieu l'aimait. Pour faire connaître le cœur de Dieu, il affrontera la fatigue, la soif et la solitude. Tout autour de lui était propre à le fatiguer. Il rencontrait de tous côtés le péché et les peines, l'ignorance et l'ingratitude, la haine et l'opposition, mais jamais il ne se lassait dans son témoignage à l'amour de Dieu, dans son service d'amour envers de pauvres pécheurs ou dans ses tendres soins à l'égard de ses disciples défaillants. Qu'en était-il de la femme qu'il était venu rencontrer? Non seulement elle appartenait à une race corrompue et méprisée, mais elle avait elle-même bu la coupe du péché jusqu'à la lie. Dans la poursuite du plaisir et la satisfaction de la convoitise, elle s'était totalement émancipée et avait fait fi de sa réputation et de tout ce qu'une femme tient pour précieux. Elle avait transgressé les lois de Dieu et des hommes et était tombée dans les profondeurs du péché et de la honte. Finalement, et il en est toujours ainsi, elle n'avait trouvé qu'amertume et insatisfaction, lassitude et honte. Évitant le contact avec ses compatriotes, elle vient puiser de l'eau à une heure où les autres femmes ne paraissaient pas. Comme toujours, son péché faisait d'elle une femme solitaire. Dans les voies de Dieu, cette pécheresse fatiguée, assoiffée et solitaire se trouve en présence du Sauveur fatigué, assoiffé et solitaire. Elle s'était fatiguée au service du péché. Il était fatigué de son voyage au service de l'amour. Ses péchés faisaient d'elle une femme solitaire. Son amour faisait de lui un homme solitaire. L'amour avait amené le Seigneur là où le péché avait mis la femme. De même, un peu plus tard, son amour le conduit à la place où le péché nous mène. La solitude insupportable de la croix, quand intime et ami l'ont abandonné, quand il a regardé s'il y avait quelqu'un qui ait compassion, mais il n'y a eu personne, qu'il a attendu des consolateurs et il n'en a pas trouvé. Trahi par un faux disciple, renié par un vrai disciple, abandonné par tous les disciples, élevé entre le ciel et la terre, rejeté par les hommes et abandonné de Dieu, il dut affronter la terrible solitude de la croix. Qu'est-ce qui l'a conduit dans cette solitude? C'était l'amour. Un amour que les eaux ne pouvaient pas éteindre et que les fleuves ne pouvaient pas submerger. L'amour qui a fait de lui un homme solitaire au puits de Sichar l'a conduit dans la solitude encore plus grande de la croix du calvaire. Si les hommes rejettent un tel amour, il n'est guère étonnant qu'ils se retrouvent finalement dans la solitude d'une perdition éternelle. Puissions-nous, comme la femme, nous trouver seuls avec Jésus au jour de la grâce? Si quelqu'un craint d'être seul avec lui, qu'il se laisse imprégner par la grâce de cette scène merveilleuse et considère comment le Seigneur agit à l'égard de cette pécheresse. Aucune parole dure ou peu aimable ne sort de ses lèvres, pas un mot d'amertume ou de reproche n'est prononcé. Il dit simplement Donne-moi à boire. Pourquoi demande-t-il une gorgée d'eau? Effectivement, le puits était profond, et il n'avait rien pour puiser. Mais n'aurait-il pas pu accomplir un miracle pour étancher sa soif? Pour d'autres personnes, certes, il opère des miracles de grâce, mais nous ne lisons jamais qu'il ait fait un miracle pour répondre à ses propres besoins. Il n'y a qu'une seule réponse. Le Fils éternel, envoyé par le Père pour être le Sauveur du monde, dans la grandeur de ses voies, condescend à être redevable d'un verre d'eau froide à une femme déchue, afin de gagner la confiance de son cœur désespéré. La femme est intriguée de ce qu'un homme, qu'elle reconnaît être un juif, lui fasse une demande à elle, une samaritaine. La réponse du Seigneur montre que la femme ne connaissait pas ses propres besoins, ni l'amour de Dieu, ni la gloire de celui devant qui elle se trouvait. Si elle avait connu, elle aurait demandé, et il aurait donné. Elle doit apprendre maintenant que Dieu est celui qui donne en amour, et qu'elle-même ne peut que recevoir en grâce, tant ses besoins sont grands. Le Seigneur parle du don de Dieu et de son bonheur de donner l'eau vive, mais la femme, totalement accaparée par ses soucis et les choses matérielles, poursuit dans sa lignée de pensée et en reste au puits, à l'eau naturelle et à Jacob qui leur avait donné le puits. Dans sa réponse, le Seigneur met en contraste l'eau qui occupait les pensées de la femme avec l'eau vive dont il a parlé. L'eau du puits, comme toutes les joies terrestres qu'elle symbolise, ne peut jamais satisfaire. Il n'y a aucune source de satisfaction durable dans les choses de la terre. L'argent, les plaisirs, l'ambition, les devoirs et les relations terrestres que l'homme poursuit peuvent procurer une distraction momentanée ou un contentement passager, mais pas de satisfaction durable. Quiconque ne connaît pas Christ a soit un cœur déçu, soit un cœur à la recherche de ce qui le désappointera. Pensée de J.N. Darby. En contraste, le Seigneur propose de donner à une pauvre pécheresse l'eau vive, ou la vie dans la puissance de l'Esprit, qui jaillira en vie éternelle. Non seulement Christ peut répondre à nos besoins comme pécheurs, mais il peut le faire au-delà de tous nos besoins. Il donne une vie qui apporte une satisfaction éternelle et conduit l'âme hors de ce monde de besoins, dans un autre monde, celui du désir satisfait. Heureux bientôt dans un monde nouveau, nous chanterons les gloires de l'agneau. Là, plus de deuil, plus de cris, plus de larmes, plus de péché, dans ce lieu plein de charme. Hélas, les choses célestes n'entrent pas dans l'ordre de pensée de cette femme. N'entrevoyant que ses besoins journaliers, elle attribue aux paroles du Seigneur un sens matériel. Comme toute l'humanité, elle verrait d'un bon œil que ses besoins journaliers soient satisfaits, sans la peine quotidienne entraînée par la chute. Les hommes se contenteraient parfaitement de bénédictions terrestres, si seulement la malédiction pouvait être enlevée. L'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Sans l'Esprit, l'intelligence humaine ne peut comprendre les choses divines. Il s'ensuit que, dans sa réponse, le Seigneur ignore tout à fait les paroles de la femme. Il est inutile de parler davantage de choses qui sont trop grandes à un esprit trop petit pour les comprendre. Aussi le Seigneur recourt-il à un autre moyen, le seul moyen par lequel les ténèbres de nos esprits peuvent être dissipées. Il s'adresse à la conscience et gagne le cœur. Le discernement dans les choses divines est donné par la conscience et non par l'intelligence. Et quelle beauté dans la manière d'agir pleine de tendresse du Seigneur. Il est assis sur le bord de la fontaine, seul, en compagnie d'une femme de mauvaise vie, afin de lui montrer ce qu'elle est et de lui révéler qui il est. Il va dénoncer sa vie pour gagner son cœur, mais il le fait seul avec elle. Il met ainsi le doigt sur la tache noire de son existence et s'adresse à sa conscience en disant « Va, appelle ton mari et viens ici. » Quelle richesse renferme le « va » et le « viens » de cette courte phrase. « Va, appelle ton mari. Découvre le péché de sa vie. Viens ici, parle de la grâce de son cœur. Le « va » semble dire « tes péchés t'ont mis à une distance infinie de moi ». Le « vient » veut exprimer « mon amour t'attire à moi ». Oh, précieux Sauveur qui connais le pire de ce qui nous concerne et qui pourtant nous appelle à venir à toi, où donc trouverons-nous un ami comme Jésus ? Dans l'univers entier, où y en a-t-il un autre qui sache tout ce que nous avons fait et qui pourtant nous aime et, parce qu'il nous aime, nous appelle à venir à lui ? Quelle révélation de l'amour divin ! La femme sent la puissance des paroles du Seigneur sur sa conscience et, reculant devant la lumière, cherche à éluder la vérité. Elle l'a dit pour la cacher. En effet, elle déclare « Je n'ai pas de mari ». Mais l'amour cherche plus distinctement à obtenir la vérité. Le mensonge est découvert. C'est vrai qu'elle n'avait pas de mari, car elle en avait eu 5, et à ce moment, elle vivait dans le péché. La femme réalise aussitôt qu'elle se trouve en présence de celui qui connaît tous les secrets. Elle sait que personne, sinon Dieu, ne connaît tous les secrets de son cœur. Aussi, sans aucune excuse ou autre tentative de cacher la vérité, elle s'exclame « Seigneur, je vois que tu es un prophète ». Elle n'a eu besoin de personne pour lui dire que Jésus était un prophète. Sa conscience étant atteinte, elle commence à comprendre et peut dire « Je vois ». Elle a beaucoup à apprendre, mais la lumière pénètre dans son âme enténébrée. Comment se fait-il que les hommes ne voient pas que la Bible est la parole de Dieu ? Il y a une raison et une seule. La conscience n'a jamais été touchée. J.N. Darby a dit « Si je trouve un livre qui me dit toutes les choses que j'ai faites, je sais ce qu'il est. Il ne demande pas à être prouvé par l'homme. La seule chose qui est l'autorité en elle-même est la parole de Dieu touchant la conscience. » La femme est encore préoccupée par ses propres pensées, mais sa confiance est gagnée au point qu'elle peut apporter au Seigneur ses difficultés religieuses. Dans sa réponse, le Seigneur profite de la remarque de la femme pour parler du changement que l'introduction du christianisme allait apporter dans l'adoration. Sur l'autorité du Seigneur, elle est invitée à croire que l'heure venait où l'adoration ne serait plus liée à une place, telle que la montagne de Saint-Marie ou le temple à Jérusalem, mais qu'elle s'adresserait à une personne. En outre, ce serait l'adoration non plus d'une personne non révélée, mais de Dieu révélé et connu en grâce comme le Père. Puis, ce ne serait plus une adoration extérieure par des formes et des cérémonies. Les adorateurs adoreraient en esprit et en vérité. Encore, Dieu ne demandera plus des adorateurs, mais, comme Père, il cherchera des adorateurs. Enfin, l'adoration chrétienne est selon la vraie nature de Dieu. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Le sens profond des paroles du Seigneur dépasse peut-être complètement la compréhension de la femme, mais au moins elle la convainc qu'elle ne peut se passer de Christ. Car telle est sans doute la signification de sa réponse. Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toute chose. Christ, comme prophète, a parlé à sa conscience et l'a placée en face de ses péchés. En présence de ses péchés, elle sent que la religion terrestre, que ce soit à cet endroit ou à un autre, ne servira à rien. Ses péchés découverts et sa religion flétrie, elle sait que nul sinon le Christ qui doit venir ne peut régler son cas. Christ, comme prophète, l'a convaincue de son besoin de Christ comme sauveur. Son langage exprime véritablement le désir. Oh, si Christ était là ! Le chemin est ainsi préparé pour que celui qui a touché sa conscience se révèle à son cœur. « Je le suis, moi qui te parle. » Elle se trouve découverte comme pécheresse en présence du Sauveur qui a toute grâce pour s'occuper de ses péchés et tout amour pour gagner son cœur. Revenant de la ville, les disciples s'étonnaient de ce qu'ils parlaient avec une femme. Lent à apprécier la grandeur de la grâce de Dieu, ils s'étonnaient, de même que nous le faisons encore, d'une telle scène. Hélas, comme si souvent, L'ignorance de la grâce s'accompagne d'un éloignement moral du Seigneur. Ainsi, ils craignent de dire au Seigneur les pensées qui leur montaient à l'esprit. Nul ne dit « Que lui demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Ils ne discernaient pas que, dans la grandeur de sa grâce, Dieu était descendu ici-bas dans la personne de son Fils afin de chercher des adorateurs. Combien le chemin qu'il suit pour trouver un adorateur est beau et digne de lui. C'est comme si Dieu disait « Dans ce monde ruiné, je désire trouver des cœurs qui s'enflamment en me contemplant à un point tel que, transportés d'admiration, ils se sentent contraints d'adorer. » Pour trouver cette âme, la parole éternelle est devenue chair, et, comme homme humble, délaissant la grande ville de Jérusalem, le temple splendide, les pharisiens religieux, les scribes érudits et les sacrificateurs cérémonieux, il se rend dans un pays corrompu et méprisé. Là, fatigué et assoiffé, il s'assied près d'une fontaine à côté d'une pauvre femme pécheresse, triste et avilie par le péché. Afin de gagner sa confiance, il se rend dépendant d'elle pour boire, puis faisant pénétrer doucement la lumière dans son âme enténébrée, il lui fait découvrir le péché de son cœur afin de pouvoir lui révéler l'amour du sien, jusqu'à ce qu'enfin, étant à bout de ressources, il ne reste plus à cette Samaritaine qu'à adorer et à louer dans la présence de la splendeur de Dieu révélée en Jésus. Si la bénédiction de la grâce du Seigneur ne parvient que lentement à toucher les disciples, elle a un effet immédiat et pratique sur la femme. Jusque-là, elle a été absorbée par ses tâches journalières symbolisées par la cruche. Elle a trouvé maintenant un nouvel objet dans la vie. Christ remplit son âme. Aussi laisse-t-elle sa cruche, et elle s'en va à la ville pour devenir un témoin dans le lieu même de son péché, de celui qui l'a délivrée. Quel merveilleux témoignage ne rend-elle pas ? Le Seigneur lui avait dit « Viens ici ». Et maintenant, reprenant les paroles du Seigneur, elle peut dire aux hommes de la ville « Venez, voyez un homme ». Elle ne les engage pas à se rendre dans un lieu ou même auprès d'une compagnie, mais les invite à venir à une personne. Jean dirigeait ses disciples vers Jésus, l'agneau de Dieu. André mena Pierre à Jésus. Philippe dit « Nous avons trouvé Jésus, viens et vois ». Et la femme déclare « Venez, voyez un homme ». Et qui est cet homme béni ? Quelqu'un, déclare-t-elle, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit à moi, mais il ne l'a dit à personne d'autre. Puis elle ajoute « Celui-ci n'est-il point le Christ ?» Effectivement, elle avait raison, il devait être le Christ. Car qui d'autre que Christ pourrait me dire tout ce que j'ai fait et malgré cela m'aimer et m'attirer à lui ? La parole qui vient du cœur atteint le cœur. Aussi lisons-nous « Ils sortirent de la ville et ils venaient vers lui ». Versets 31 à 38 « La volonté du Père au service des pécheurs » Citation de l'Écriture. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « Moi, j'ai de la viande à manger que vous, vous ne connaissez pas. » Les disciples donc dirent entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, il y a encore 4 mois et la moisson vient ? Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle, afin que, et celui qui sème, et celui qui moissonne, se réjouissent ensemble. Car en ceci est vérifiée la vraie parole, l'un sème et un autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes entrés dans leur travail. » Fin de citation. Les disciples étaient occupés des choses matérielles plutôt que des besoins spirituels. Toutefois, leurs paroles prouvent leur amour réel pour le Seigneur. En effet, nous lisons qu'ils le priaient, disant « Rabbi, mange !» Dans sa réponse, sans nier les besoins du corps, le Seigneur indique qu'il avait une source de subsistance et de joie dont il ne savait que peu de choses ou rien. j'ai de la viande à manger que vous, vous ne connaissez pas. » Pensant toujours aux besoins matériels, ils dirent donc entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» En réponse à leurs exercices, le Seigneur nous révèle la bénédiction du chemin qu'il suivait. Il dit, « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Au milieu de toutes les peines de la terre et des épreuves du chemin, nous avons ici un homme qui était soutenu par un seul objet, faire la volonté du Père. Placé devant la perfection de son chemin, nous pouvons bien interroger nos cœurs quant aux motifs qui nous soutiennent dans notre marche journalière. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ne devrions-nous pas admettre, pour le moins, que nos motifs sont très mélangés? Et pourtant, combien nous nous faciliterions la vie si, dans notre petite mesure, réalisant que le Père a une volonté à notre égard et un plan pour nous, notre seul désir était de faire sa volonté et d'accomplir l'œuvre qu'il nous a donné à faire. 2 Timothée 2, verset 4, Actes 20, verset 24, 2 Timothée 4, verset 7. Pour l'instruction des disciples et la nôtre, le Seigneur place devant nous la bénédiction du chemin de la volonté du Père dans le service d'amour envers autrui, et il nous encourage à prendre le même chemin, à cet égard, que lui-même avait suivi. Premièrement, le Seigneur veut nous occuper de la moisson céleste, non pas de la moisson naturelle. S'il avait été question de cette dernière, les disciples auraient dû attendre 4 mois. Les besoins spirituels sont toujours présents. Les campagnes spirituelles sont déjà blanches pour la moisson. Deuxièmement, le Seigneur rappelle que celui qui est engagé dans ce service d'amour reçoit un salaire. Il ne le gagne pas nécessairement, comme s'il s'assurait simplement le juste équivalent de ses travaux, mais il reçoit un salaire. Cela peut effectivement être plus que ce qu'il a mérité. Le Seigneur ne veut être le débiteur de personne, mais il garde sa souveraineté en récompensant ses serviteurs. Troisièmement, le fruit de ce service demeure. Pour son travail naturel, l'homme s'assure seulement des choses qui périssent à l'usage. Dans ce service spirituel, le moissonneur assemble du fruit en vie éternelle. Voir 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Quatrièmement, c'est un service qui procure de la joie et une joie qui est partagée avec d'autres. Et celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Les prophètes et les hommes pieux d'autrefois avaient travaillé, et les disciples récoltaient le fruit de leurs travaux. N'était-ce pas vrai, dans un sens, du Seigneur lui-même ? Le Père avait travaillé jusqu'alors, chapitre 5, verset 17, par les prophètes et d'autres depuis le commencement du monde, et le Seigneur pouvait dire qu'il était envoyé pour achever son œuvre, verset 34. Dans un autre sens, le Seigneur, comme le semeur, avait commencé une œuvre entièrement nouvelle, Matthieu 13, en conséquence, d'un point de vue dispensationnel, les serviteurs du Seigneur moissonnent plutôt qu'ils ne sèment, et ainsi ils sont chargés de moissonner plutôt que de semer. Néanmoins, comme principe général, il reste certainement vrai que l'un sème et un autre moissonne. Versets 39 à 42, le Sauveur du monde. Citation de l'Écriture. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le priaient de demeurer avec eux. Et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole, et ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons, car nous-mêmes nous l'avons entendu ». Et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. » Fin de citation. Dans la ville des Samaritains corrompus, le Seigneur est reconnu comme le Sauveur du monde. À la femme, le Seigneur avait dit que le salut vient des Juifs. Maintenant, il se plaît à montrer que ce salut est pour les Samaritains. Comme l'a dit un autre, sans signe ni prodige ou miracle, dans ce village de Samarie, Jésus a été entendu, connu et confessé comme étant véritablement le Sauveur du monde. Pensée de William Kelly. Le témoignage de la femme à la grâce de Christ avait attiré à lui les cœurs de ses Samaritains, et ils le prièrent de demeurer avec eux. Nul juif, s'accrochant à sa propre justice et à son importance religieuse, n'aurait jamais confessé Christ comme étant le sauveur du monde. Mais l'homme qui s'est reconnu pécheur dans la présence de celui qui connaît tous ses péchés et qui, toutefois, est plein de grâce pour le pécheur, voit tout de suite qu'une porte de bénédiction est ouverte pour tout pécheur. Versets 43 à 54. L'histoire du Seigneur de la cour. Citation de l'Écriture. Or, après les deux jours, il partit de là et s'en alla en Galilée. Car Jésus lui-même rendait témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Quand donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi allaient à la fête. Il vint donc encore à Cana de Galilée, où il avait de l'eau fait du vin. Et il y avait à Capernaum un seigneur de la cour, duquel le fils était malade. Celui-ci, ayant ouï dire que Jésus était venu de la Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, car il allait mourir. Jésus donc lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. » Le seigneur de la cour lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et s'en alla. Et déjà, comme il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui et lui rapportèrent que son fils vivait. Alors il s'enquit d'eux à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père donc connut que c'était à cette heure-là, à laquelle Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle quand il fut venu de Judée en Galilée. Fin de citation. L'histoire de la femme nous a montré qu'il y a grâce pour le pire des pécheurs. Par l'instruction donnée aux disciples, nous apprenons que, de tous côtés, les pécheurs dans le besoin sont innombrables. Dans la ville de Samarie, nous entendons que Christ est le sauveur du monde. Et maintenant, nous allons voir que la bénédiction ne peut être reçue que par la foi. Après être resté deux jours dans la ville de Samarie, le Seigneur s'en va en Galilée. Les habitants de Sichar avaient reçu le Seigneur en raison de son témoignage. Ils disent « Nous-mêmes nous l'avons entendu ». En contraste, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem. Le Seigneur profite de la venue à lui de ce Père dans le besoin pour reprocher à la nation juive de chercher des signes et des prodiges comme fondement de la foi. Le Père prie le Seigneur de descendre et de guérir son fils qui allait mourir. Les paroles du Seigneur pourraient peut-être nous laisser supposer que ce Père mettait le Seigneur à l'épreuve. S'il pouvait voir Christ ressusciter miraculeusement son fils, il croirait. Le Seigneur censure cette pensée. La foi ne repose pas sur des signes extérieurs faisant appel à la vue, mais sur la parole de Dieu. Aussi le Seigneur fait-il dépendre la bénédiction de la foi en sa parole. « Va, ton fils vit. » Le Seigneur de la cour est ainsi mis à l'épreuve. Se contentera-t-il de croire la parole de Jésus sans voir de signes et de prodiges? Il répond d'une manière très belle à la mise à l'épreuve. En effet, nous lisons, « L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite. » Puis, ayant cru, il reçoit le signe comme confirmation de sa foi. Aucun signe ne peut donner la foi, mais les miracles confirmeront la foi qui existe. Nous avons ici le second miracle que Jésus fit, un signe montrant que le Seigneur avait la puissance d'arrêter la mort dans le cas d'une personne qui allait mourir. Comme le fils du Seigneur de la cour, Israël, en tant que nation, allait mourir. Et Christ était présent avec la puissance d'arrêter la mort et de guérir le peuple. Mais la réception de la bénédiction impliquait la foi en sa parole. Hélas, la nation a manifesté son manque de foi en recherchant des signes.